Et si on ouvrait la parole de Dieu, et j'aimerais ce matin rappeler à nos cœurs une déclaration que le Seigneur lui-même nous laisse au travers de sa parole, ou en tout cas au travers de la bouche de l'apôtre Paul. C'est très court, c'est un verset qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Je vous laisse le temps de le chercher, de le découvrir, ce passage. Mais il m'a interpellé plusieurs jours, et c'est pour cela que je vous l'apporte ce matin, et je crois que c'est bien ce que le Seigneur veut, que nous puissions entendre les uns et les autres. 1 Corinthiens chapitre 3, et juste le verset 9. L'apôtre Paul s'exprime et dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et je voudrais particulièrement qu'on puisse s'arrêter sur cette première partie de ce verset 9. « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Il y a d'autres versions qui expriment cette déclaration de la manière suivante. « Nous sommes des collaborateurs de Dieu. » « Nous sommes des coopérateurs de Dieu. » Amen. C'est un honneur. C'est une grâce. C'est un privilège. Nous avons en fait le merveilleux privilège de travailler avec Dieu. Et c'est encore l'apôtre Paul qui va dire autre part dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 6 et le verset 1, cette déclaration. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Mon frère, ma sœur, ce matin, sache que tu es ouvrier avec Dieu. Est-ce que c'est possible de le dire à celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Oui, tu es ouvrier avec Dieu. Je vous regarde, hein? Il faut qu'il entende, il faut qu'il le comprenne. Je ne sais pas si vous avez noté avec moi, si vous avez fait attention, même à ces deux passages qu'on vient de lire. Il est question d'être ouvrier avec Dieu et pas ouvrier pour Dieu. Il est question aussi, on vient de le lire là maintenant, de travailler avec Dieu et pas forcément travailler pour Dieu. Il y a une nuance qu'il faut souligner ici. Vous savez, il y a, même l'histoire le raconte, certaines personnes, certains croyants, certains religieux, qui ont travaillé pour Dieu et ont travaillé à toutes sortes de croisades. Encore aujourd'hui, certaines personnes, parce qu'ils pensent qu'ils travaillent pour Dieu, ils sont prêts même à pouvoir tuer des gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que quelque part, on peut quelque part travailler pour Dieu, mais pas de la bonne façon, pas de la bonne manière. Et c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean chapitre 16, du verset 1 à 3, un autre verset. Prenez à côté de vous vos stylos parce qu'il y a quelques références, plusieurs références que je vous donnerai. Il y a celle-ci par exemple, Jean chapitre 16, verset 1 à 3, Jésus qui parle et il s'adresse à ses disciples. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, ces hommes religieux. Et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi-même, dit Jésus. Et ce fut, vous le savez, le cas de l'apôtre Paul. Un homme qui a pu développer, j'ai envie de le dire, donc un certain zèle, mais un zèle amer. Et lui-même va le dire au travers d'un témoignage, ne le cherchez pas, acte chapitre 22, vous l'avez derrière mon dos sur l'écran, acte chapitre 22, versets 3 et 4, il va dire, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, si, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Vous voyez, on peut avoir plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes qui se revendiquaient du Seigneur Jésus. À cette époque, Paul, qui s'appelait encore Saul, il travaillait pour Dieu. Il ne travaillait certainement pas avec Dieu. Il pensait travailler pour Dieu, mais en fait, il travaillait contre Dieu. Et quelquefois, on peut être sincèrement dans l'erreur. Saul, en fait, ne connaissait pas Dieu. Saul était loin de connaître celui d'ailleurs qu'il a arrêté sur le chemin de Damas. Vous savez, hein, son histoire. Il partait pour arrêter les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Damas. Et la Bible nous dit une lumière est venue le faire tomber à terre. Et il entend la voix du Seigneur Jésus, certainement, pour la première fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je pense que là, il est tombé de cheval. Hein. Là, il est tombé de bien bas. De bien haut. Et là, eh bien, a commencé pour lui, parce que c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Ses yeux et mieux encore, son cœur s'est ouvert. Et là, eh bien, a commencé pour lui eh bien, une merveilleuse aventure avec le Seigneur Jésus. Et de Saul qu'il était, il est devenu le grand apôtre Paul, eh bien, qui nous instruit, qui nous enseigne encore ce matin. Il va de soi que pour être ouvrier avec Dieu, il faut tout d'abord être enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qui peut aujourd'hui se reconnaître comme ouvrier avec Dieu, si ce n'est celui ou celle eh bien, qui, à un moment donné, a compris qui est Dieu, a connu Dieu, a développé une relation avec Dieu. Et comme on vient de le chanter, eh bien, a choisi de mettre Jésus au centre. C'est étonnant. Tous les chants corroborent avec ce que eh bien, nous avons pu entendre eh bien, ce fameux vendredi soir où nous avons passé la nuit ensemble. J'en parlerai tout à l'heure, c'est extraordinaire. Nous étions dans le plan de Dieu au travers de cette réunion de prière. Et Dieu nous parle, il y a un fil directeur, le Seigneur il ne lance pas des choses. Il sait où il veut mener son église, il sait où il veut mener son peuple, c'est tellement important. Nous sommes ouvriers avec Dieu lorsqu'on a expérimenté la repentance. Il y a certaines personnes, quelquefois au travers d'entretien, et je parle avec eux, et je leur dis, mais est-ce que vous êtes repentis de vos péchés ? C'est quoi la repentance ? Vous comprenez, il y a des étapes à valider. Et la Bible nous parle. Les premières paroles que Jésus a annoncées lorsqu'il a commencé son ministère, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comprendre qu'on a besoin de réaliser que nous sommes les uns les autres, tous, le monde entier, est sous la domination du péché. Nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu a fait qu'il a dépêché un sauveur et un seul, Jésus-Christ. Et quand on accepte le sauveur comme dans notre cœur, eh bien, il nous transforme, il fait de nous une nouvelle créature. Et c'est alors qu'on devient ouvrier avec Dieu. Pour être ouvrier avec Dieu, il faut s'appliquer, bien sûr, à marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Jamais, au grand jamais, j'ouvrirai un autre livre que... Si ce n'est eh bien, la parole de Dieu, la Bible. Il nous faut, bien sûr, marcher de sanctification en sanctification pour être ouvrier avec Dieu. Vous connaissez ce passage, la Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, la vérité suivante. L'apôtre Paul, toujours, qui parle et qui exhorte un jeune serviteur de Dieu du nom de Timothée. L'histoire raconte que les deux livres de Timothée sont quelque part les deux dernières lettres que l'apôtre Paul écrit avant qu'il soit exécuté. Et il dit entre autres, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Comprenons ce que Dieu veut nous dire. Pour prétendre être ouvrier avec Dieu, il nous faut nous aussi chercher toujours, jour après jour, de mieux en mieux. Je ne dis pas qu'on va atteindre la perfection ici-bas, c'est dans le ciel qu'on va l'atteindre. Mais toujours tendre à cette sainteté, se conserver pur afin d'être utile et propre à toute bonne œuvre, eh bien comme un ouvrier, eh bien comme on réclame d'un ouvrier. Et nous voudrions travailler encore à cela. Le Seigneur nous a placé un thème, celui de la sanctification. Nous avons commencé à développer ce thème en début d'année. Je crois que c'est la direction, la pensée que Dieu veut nous accorder. Et on a besoin encore de laisser le Seigneur nous émonder de l'intérieur, extirper de nos vies encore tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et on en trouve un plaisir, une joie, afin de pouvoir toujours ressembler au Seigneur. Vous connaissez ce petit chant ? Te ressembler, c'est mon espoir suprême. Pensez. Agir, aimer comme Jésus. Je pense que c'est également votre désir, mais c'est mon désir suprême. On rêve de pouvoir ressembler à ce Seigneur Jésus qui a été parfait en toutes choses. Il a voulu marcher parmi les hommes, prendre une chair comme la nôtre pour nous donner un véritable exemple. Ce que Jésus a pu faire ici-bas, cette terre, nous sommes capables de le faire parce qu'il était parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Alors, j'aimerais très rapidement essayer maintenant de répondre à une question avec vous. qui, quelque part, s'impose à nous. En quoi consiste le fait d'être ouvrier ou ouvrière, bien sûr, vous l'avez compris, avec Dieu? Et j'ai pour vous quelques réponses, j'en ai trois, quatre, on n'ira pas plus loin. Premièrement, être ouvrier avec Dieu consiste à travailler en collaboration avec Dieu pour un but bien particulier, pour le salut des âmes. Tout disciple de Jésus-Christ est appelé à être ouvrier avec Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Alors si c'est vrai, dites amen, n'ayez pas peur. Vous savez, être ouvrier avec Dieu n'est pas quelque part l'exclusivité d'une certaine élite parmi le peuple de Dieu. Je choisis, quelque part, d'être ouvrier avec Dieu. L'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, est appelé à être ouvrier avec Christ, concernant, bien sûr, eh bien, la grande mission que Dieu nous a laissée à son Église, cette mission, celle de pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas seulement la mission des différents ministères dont. C'est aussi la mission de chaque chrétien. Et c'est là aussi un but à atteindre qu'on va aussi développer parmi nous, encore et encore, savoir nous entraîner à être des témoins dans notre génération, à pouvoir parler de Jésus autour de nous. Est-ce que nous sommes ces témoins jour après jour? Est-ce que nous sommes la bouche? Est-ce que nous sommes les yeux du Seigneur? Est-ce que nous sommes ses mains, ses pieds? Et quelque part, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, comme Jésus lui-même a dit à ses disciples dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 20, ça va nous faire du bien de relire ce passage. Il nous est dit, Marc chapitre 16, versets 15 à 20, Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples avant de remonter au ciel, il dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, on est au verset 20, j'ai sauté un petit peu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, depuis quelques instants, je suis en train de vous dire qu'on est appelé, nous sommes, ouvriers avec Dieu. Mais ce texte, ce verset 20, nous montre aussi que le Seigneur, en retour, choisit également d'être ouvrier avec nous, travailler avec nous, collaborer avec nous, dans cette grande mission qu'il nous a confiée. Comme je disais tout à l'heure, être la bouche du Seigneur Jésus, être ses yeux. Et regardez ce monde qui nous entoure, regardez peut-être nos voisins, même nos ennemis, comme le Seigneur pourrait les regarder. C'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir travailler à ses côtés pour le salut des âmes. Le Seigneur n'a pas confié aux anges la mission de pouvoir prêcher l'Évangile, il l'a confié à son Église. Il nous l'a confié. Et nous avons la responsabilité de toute la ville d'Istres, nous avons la responsabilité de Rassuin, d'Entre-Saints, de toutes ces banlieues autour de la ville d'Istres. On a besoin de sortir de nos quatre murs et parler de ce sauveur merveilleux qui est capable de pouvoir changer, alléluia, les vies de ceux et de celles qui se confient en lui. Cette mission, nous voulons pleinement l'accomplir ici à Istres. Et Jésus ne nous a pas envoyés seuls. Pour accomplir cette mission, il nous a envoyé son Esprit Saint. Pour ça aussi, avant de repartir vers le Père, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et personne ne me dit, mais je ne sais pas quoi dire. C'est très bien. Maintenant, mon frère, ma sœur, efface-toi et laisse maintenant le Saint-Esprit parler par ta bouche. Laisse Jésus parler par ta bouche. Comme a dit Jean-Baptiste, que nous puissions diminuer et que lui, il puisse pleinement croître. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 et le verset 16, cette déclaration également que je veux placer devant vos yeux. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin que ce dernier puisse demeurer éternellement avec vous. Et il fait mention là de cette troisième personne de la divinité, de la Trinité, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il est là ce matin. Et peut-être vous a-t-il parlé, peut-être est-il en train de vous parler au travers de ce que je suis en train de vous dire. Il veut vous conduire dans toute la vérité. Il veut partager notre quotidien. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, dit le verset 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Pourquoi ? Parce qu'il demeure avec vous. Tiens, on retrouve notre, voilà, notre expression. Avec vous. Et il sera en vous. Et mieux encore, il sera sur vous. Au travers du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, quand on est rempli de l'onction du Saint-Esprit, on sait eh bien, ce que nous avons à faire. On n'est même plus pris ou tenu par la timidité parce que eh bien, l'Esprit de Dieu en dedans de nous nous rend débordant de l'amour de Dieu. Et la Bible nous le dit, l'amour parfait bannit la crainte. Alors on n'a plus peur, même de celui qui pourrait rugir devant nous. Parce que l'amour, rien n'est plus fort que l'amour. Et on est capable de désarmer toute situation avec l'amour de Dieu. Ouvrier avec Dieu, je viens de le dire, consiste à travailler en collaboration avec Dieu pour le salut des âmes. Mais au vu de ce que je suis également en train de vous dire, on peut le dire, être ouvrier avec Dieu consiste à travailler avec la personne du Saint-Esprit, en étroite relation avec la personne du Saint-Esprit. Nous nous revendiquons comme étant eh bien, le mouvement de Pentecôte, parce que nous avons compris qu'il y a cette dimension que le Seigneur Jésus a laissée à son Église. Lui remontait vers le Père, mais il savait que l'Église avait besoin eh bien, d'être soutenue et d'une autre façon, d'une manière plus efficace. Et c'est pour ça qu'il a envoyé, alléluia, cette effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, environ 120 dans cette chambre haute. Et tous, unanimement, ont reçu, alléluia, la grâce de Dieu. C'était des gens qui étaient persévérants. Je l'ai déjà dit, je suis sûr qu'au départ, dans cette chambre haute, ils étaient plus nombreux. Et qu'il n'y avait même pas de place. Il y avait des gens à l'extérieur, il y avait des gens devant la maison. Tous avaient entendu le mot d'ordre, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la bénédiction a bien descende. Il y avait un enthousiasme au départ, un zèle au départ. Et les jours sont passés. Premier jour, tout le monde est là. Deuxième, ah mais alors là, j'avais un rendez-vous, je ne peux pas. Troisième, ah mais moi j'ai l'anniversaire, hein. Attention. Là, je ne peux pas, je ne peux pas. Et Dieu connaît toutes choses. Quatrième. Cinquième, sixième. Vous savez que le Seigneur s'est révélé à peu près 500 frères à la fois. Comprenons que toutes ces personnes certainement étaient là au départ. Et jour après jour, le nombre commence à diminuer. Et le dixième jour, 10 jours d'attente, 10 jours de persévérance. Parce que Dieu, quand il fait une promesse, il ne ment jamais. Le Saint-Esprit est tombé. Et tous, grands comme petits, je ne sais pas. Eh bien, il nous a dit, ils étaient environ 120. Mais qui étaient là ? Hommes, femmes, enfants peut-être. Tous se mirent à parler dans d'autres langues. Dieu veut bénir. Dieu, il ne ment pas. Et quand il laisse une promesse, c'est aussi, eh bien, il veille aussi à pouvoir l'accomplir. Et à partir de ce moment-là, ces mêmes chrétiens, eh bien, raisonnaient avec le Saint-Esprit. Ils vivaient par le Saint-Esprit. Ils travaillaient avec le Saint-Esprit. Ils se laissaient inspirer et diriger par le Saint-Esprit. Je voudrais juste vous montrer un verset qui nous montre vraiment la place de choix qu'avait le Saint-Esprit eh bien, parmi eh bien, les premiers chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Regardez Actes chapitre 15, verset 28, un verset que j'aime beaucoup. Ils ont dû à un moment donné envoyer un courrier à plusieurs églises des environs. Il y avait quelques conflits sur le plan doctrinal. Et eh bien, les apôtres, les anciens qui se trouvaient encore à Jérusalem, ont écrit un courrier. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Pour moi, ce verset, je ne sais pas ce qu'il vous inspire, mais il me montre combien ils avaient compris la priorité des priorités de laisser le Saint-Esprit à bien prendre les devants. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit prendre les devants dans ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur. Tu fais plein de plans, tu prends plein de décisions. Mais je peux te dire que le Saint-Esprit est capable de te montrer la direction, le chemin qui va te permettre de sortir victorieux de cette épreuve, de cette difficulté que tu es en train de vivre. Le problème, et peut-être, eh bien, moi le premier, nous n'écoutons pas assez le Saint-Esprit. il a paru bon au Saint-Esprit, à nous. Ils auraient pu écrire, il a paru bon aux apôtres ici réunis, à l'Église, etc. Et puis aussi, bien sûr, au Saint-Esprit. Non, ils ont choisi de pouvoir mettre en premier lieu la personne du Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit, puis à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Rien ne se faisait sans le consentement du Saint-Esprit. Rien ne se faisait sans l'approbation du Saint-Esprit. Rien ne se fait, ne se faisait sans son assistance. Et plus que jamais, nous qui vivons les derniers temps, nous avons besoin de travailler, de composer avec le Saint-Esprit. C'est ça, être ouvrier avec Dieu. C'est de réaliser que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, mais qu'il nous a donné son Esprit Saint afin que nous puissions prier par le Saint-Esprit. Parce que c'est ça. Que Dieu pourra entendre, c'est ce genre de prière qui trouvera une pleine approbation aux oreilles du Seigneur. Il nous faut méditer la parole par le Saint-Esprit. Il nous faut témoigner par le Saint-Esprit. Il nous faut louer, adorer par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce petit chant ? Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante, je danse, je loue comme David. Tout par le Saint-Esprit. Être ouvrier avec Dieu consiste à avoir une étroite relation avec la personne du Saint-Esprit. Mais je trouve aussi un troisième point à pouvoir souligner. Être ouvrier avec Dieu consiste à obéir avec foi à ce que Dieu nous demande de faire. Amen ou pas amen? Vous savez, dans ce à quoi Dieu nous appelle, Dieu a tout prévu. De A jusqu'à Z. Quelquefois, on se triture l'esprit, on dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu dans notre génération ?» Stop. Dieu a déjà tout prévu du début jusqu'à la fin. C'est lui qui, par exemple, du milieu de son peuple, nous choisit pour une tâche bien précise. Juste prenez des notes. Jean chapitre 15 et le verset 16. Jésus qui se tourne vers ses disciples et remet les pendules à l'heure. Il a dit « ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. » Quelquefois, quand on entend certains témoignages, on a l'impression que c'est... C'est eux qui sont venus vers Jésus. C'est Jésus qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a croisés. C'est lui qui a fait le premier pas. Et il rappelle, il remet les pendules. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Il y a une autre version. Je vous ai donné une place. Je vous ai assigné un poste bien précis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et vous savez, dans les choix de Dieu, il ne se trompe jamais. C'était exactement les 12 disciples qu'il devait avoir pour les avoir avec lui, autour de lui. Il ne s'est pas trompé quand il a choisi Moïse. Parce qu'il fallait un homme fort patient pour faire sortir ce peuple, 1 million de personnes, du pays d'Égypte, pour les amener jusque vers le pays promis. Il ne s'est pas trompé quand il a pris cette jeune vierge Marie. Parce que Dieu savait qu'elle allait accepter avec une simple foi. Ce qui pouvait être très étonnant. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom, Alléluia, de Jésus. Qu'aurions-nous fait à la place de Marie? Mais le Seigneur ne se trompe pas dans son casting et dans son choix, excusez-moi l'expression. Il ne s'est pas trompé par rapport à ce fameux Saul de Tarse. Parce qu'il savait qu'il allait le transformer par la suite en ce grand apôtre Paul. Et il ne s'est pas trompé à votre égard. Il t'a choisi, mon frère. Il t'a choisi, ma sœur. Et je voudrais te dire qu'il a tout préparé d'avance. Il sait les projets qu'il a pour ta vie. Mais il sait aussi les plans. Il sait aussi les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en même temps d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu prépare à l'avance notre travail dans les moindres détails, afin que nous ne nous inquiétons de rien, si ce n'est obéir. Obéir avec foi, obéir avec confiance à ce que Dieu nous demande de faire. Et s'il fallait résumer la vie chrétienne, le service de Dieu auquel Dieu nous appelle, c'est ni plus ni moins obéir. Mais pour obéir, il faut entendre. Comment, si je n'ai pas une communion personnelle avec Dieu au quotidien, comment pourrais-je entendre les directives ou les tâches, les missions que Dieu a préparées d'avance pour moi ? Et mieux encore, un autre point, Dieu aussi qui met en nous la motivation et même la capacité, les compétences pour réaliser ce à quoi il nous appelle. Pour cela, quelque part, lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, nous n'aurons aucune excuse. Parce qu'il a tout préparé du début jusqu'à la fin. Il y a cet autre passage qui dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, le savoir-faire selon son bon plaisir. » Quand il y a quelque chose, un feu qui brûle au-dedans de vous, quand il y a quelque chose de particulier, certains sont portés vers la libéralité pour pouvoir aider le prochain. Ces choses viennent de Dieu. C'est lui qui met en nous le vouloir et il met aussi le faire, c'est-à-dire la capacité pour pouvoir eh bien, répondre à l'appel auquel eh bien, il dépose sur notre vie. C'est pour cela que j'affirme qu'être ouvrier avec Dieu, ça consiste ni plus ni moins à obéir avec foi à ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu te demande certaines choses, c'est parce qu'il sait bien que tout est prêt, bien pour que tu puisses l'accomplir et que tu puisses le faire et qu'en retour, Dieu soit glorifié. Si c'était nous qui avions préparé les plans, on pourrait dire « mais c'est moi qui ai fait ceci et cela ». Pour venir à cette soirée de vendredi, c'est jamais Joël qui a... Pour ça, il y a des personnes qui m'ont dit « ah, c'était très bien ». J'ai dit « mais c'est le Seigneur, hein. J'y suis pour rien ». Certains sont venus me voir et m'ont dit « mais Joël, le 21 juin, quand même, c'est la fête de la musique, tout ça, etc. » J'ai dit « j'entends bien, mais ça, il faut le dire au Seigneur ». C'est lui qui prépare. Et il s'agit pour nous d'entendre la voix du Saint-Esprit, nous montrer les directives. Eh bien, tout est préparé. Et il s'agit tout simplement d'obéir, d'obéir. Un dernier point, je veux terminer, je ne veux pas être trop long. Être ouvrier avec Dieu consiste aussi à travailler dans l'unité avec les autres croyants. Ah, j'aurais aimé entendre un plus grand amen. On est une grande famille, hein. Est-ce qu'on se ressemble? Non. Est-ce qu'on a le même visage? Non, on vient de nationalités différentes, on vient avec des cultures différentes, on vient bien avec des personnalités différentes. Mais nous sommes tous appelés à pouvoir dispenser ensemble dans la communion fraternelle, à bien travailler, servir bien à la cause, à la meilleure des causes, servir à l'avancement du royaume des cieux. Il y a ce passage dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, qui nous rappelle une vérité. C'est Pierre, cette fois-ci, qui parle et il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alors si mon frère, ma sœur, tu te demandes si tu as un don ou pas, je veux te dire de la part de Dieu ce matin, tu as reçu un don. Et il ne faudrait pas, et surtout pas que nous le découvrions lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur. Il est de notre responsabilité, en faisant tout ce que notre main trouve à faire, de pouvoir bien découvrir ce don. C'est voilà ce que dit la Bible. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons tous reçu un don. Autrement, nous aurions affaire à un Dieu injuste. Alors le don, il peut être différent. Il peut être d'ordre naturel. Il peut être d'ordre spirituel. Peu importe. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Et Dieu, il donne. Il donne à chacun. Il met à notre disposition ces différents dons afin que dans l'unité, qu'ensemble, nous puissions travailler avec Dieu pour l'avancement de son royaume. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite parabole, c'est une petite allégorie, une petite scénette concernant les outils du charpentier. Qui connaît cette histoire? Alors je vais vous la lire parce que j'ai l'impression que personne ne connaît. Les outils du charpentier tinrent un jour une conférence. Ils tinrent une conférence dans l'atelier de leur maître. Et c'est le frère Marteau. Écoutez bien. Le frère Marteau fut le premier à prendre la parole, car l'assemblée l'avait informé qu'il devait partir, étant trop bruyant. Alors il déclara, « Puisque je dois vous quitter, je demande que la sœur Chignol en fasse autant. » car elle est insignifiante et ne produit que peu d'impression. Alors c'est la sœur Chignol qui se leva à son tour et dit « Je suis d'accord, mais que la sœur Vice s'en aille aussi, car pour arriver à quelque chose avec elle, il faut tourner bien longtemps. » « Si tel est votre désir, déclara sœur Vice, je partirai, mais frère Rabot devra aussi se retirer. Oui, frère Rabot, oui, c'est toi. Il est trop superficiel. »
Le frère Rabot répondit à son tour, « Eh bien, que la sœur règle, parte avec moi, car elle est toujours en train de mesurer les autres. » La sœur règle se plaignit alors du frère papier de verre, qui, dit-elle, est bien plus dur qu'il ne devrait l'être. Mais voilà qu'au milieu de la conversation arrive le charpentier, le propriétaire de l'atelier. Il mit son tablier et s'approcha de l'établi pour accomplir son travail. Il utilisa tour à tour la vis, ensuite la chignole, le papier de verre. Il utilisa même la scie, le marteau, le rabot et tous les autres outils de son atelier. La journée de labeur achevée, on vit la sœur scie se lever et déclarer à tous, « Frères et sœurs, je constate finalement que nous sommes tous ensemble ouvriers avec le charpentier. » C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion, frères et sœurs. Vous l'avez compris, nous sommes semblables à ces différents outils dans l'atelier du charpentier. Et bien sûr, transposons la chose. Notre charpentier à nous, c'est le fils du charpentier, Jésus. Il nous a donné tous un talent, un don à mettre à valoir. Et c'est lui qui nous utilise les uns les autres. On peut être chignol, on peut être scie, on peut être marteau. Béni soit Dieu. Et qu'ensemble, nous puissions unir nos forces pour pouvoir travailler à l'avancement, alléluia, du règne de Dieu. Que nous ne soyons pas là à nous jalouser, que nous ne soyons pas là à nous mépriser, à critiquer. Mais qu'ensemble nous puissions bâtir, alléluia, cet édifice à la gloire de Dieu. Nous avons tous des fonctions différentes, mais ensemble, nous sommes appelés à pouvoir travailler à la plus grande et la meilleure des causes. Vous savez, moi je prenais un grand plaisir à pouvoir travailler dans mon travail séculier. On ne me demandait pas de venir, je ne traînais pas les pieds. Je venais même quelquefois plus tôt et je partais plus tard, j'aimais mon travail. Mais il est arrivé un moment donné où, eh bien, dans mon cœur, je sentais qu'il y avait un tournant et Dieu voulait m'appeler à bien pouvoir maintenant pleinement servir. Je servais déjà Dieu de manière ponctuelle puisque je m'occupais d'une église. Je faisais 90 km après le travail. Mais tout ça, le Seigneur, il le voit. 90 km aller, 90 km retour et pour revenir le lendemain travailler. Ah, je vous avoue, il y a eu des moments où j'ai bâillé. Mais quelle joie de pouvoir servir le meilleur des maîtres. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Je ne veux pas venir devant le Seigneur et présenter un bien des mains vides. Parce qu'il sera question de récompense. Et Dieu va prendre le temps, un après l'autre, de pouvoir nous récompenser par rapport à bien au fait, ni plus ni moins, que nous sommes entrés dans ce qu'il a déjà préparé. Et n'allez pas me dire que Dieu n'a pas préparé quelque chose pour vous. Il a préparé pour chacun d'entre nous. Et ne regardons même pas la quantité. Pour un, le Seigneur va lui demander juste eh bien, de pouvoir se contenter de faire ceci. Et l'autre, peut-être des choses qui, d'apparence, peuvent être plus grandes. Mais aux yeux de Dieu, c'est important. Et puis c'est aussi l'état de cœur avec lequel on va le faire. Et puis ce qui est important, c'est de savoir aussi si nous avons obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Je veux conclure. Je veux juste rappeler que nous, enfants de Dieu, nous avons cet immense privilège. Nous avons eh bien, tous ensemble cet immense privilège d'être ouvriers avec Dieu. Mieux encore, de pouvoir travailler avec Dieu pour le salut des perdus. Et ce travail, nous voulons l'accomplir, bien sûr, avec l'assistant du Saint-Esprit, avec la personne en collaboration, en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Et ce travail aussi, nous voulons l'accomplir avec un esprit d'obéissance, avec un esprit de foi. Totale confiance en Dieu. Seigneur, je ne sais pas où est-ce que tu veux me mener, mais je te fais pleinement confiance parce que tu as préparé des œuvres eh bien, qui vont servir à pouvoir te glorifier toi. Et puis enfin, eh bien, ce travail, nous voulons l'accomplir dans l'unité avec les frères et les sœurs. Nous sommes complémentaires, frères et sœurs. Nous formons une seule et même famille et ensemble, eh bien, pour travailler pour la meilleure des causes. Je veux laisser l'apôtre Paul eh bien, conclure. Il a introduit au travers de ce court verset, 1 Corinthiens 3, 9. Je voudrais terminer avec 1 Corinthiens 15, verset 58. Et puis après, nous allons prier. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, comme de bons ouvriers de Jésus-Christ. sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jésus revient bientôt, il est à la porte. Nous serons transformés à son image. Mais mieux encore, il veut, il désire, devant tous les anges réunis, devant le Père, Jésus veut, alléluia, nous récompenser, nous donner même un nom nouveau, des choses extraordinaires qui, bien sûr, va correspondre à ce que nous serons, eh bien, ici-bas, cette terre. C'est tellement, tellement important de pouvoir comprendre toutes ces choses. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège, cet honneur. Seigneur, cette grâce de savoir que nous sommes ouvriers avec toi. Seigneur, nous voudrions pas seulement travailler pour toi, mais mieux encore travailler avec toi. Seigneur, en collaboration avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous voudrions, Seigneur Père mon Dieu, agir, Seigneur, selon les directives, Seigneur, que tu nous donnes, obéir avec foi, Seigneur, sans douter, et te faire pleinement confiance parce que les ouvrages, les œuvres, Seigneur, auxquelles nous avons été appelés, tu les as déjà préparées d'avance. Finalement, tout est joué d'avance. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses et dans l'unité, à pouvoir travailler, que nous puissions tous ensemble mettre en commun les dons, les talents que tu nous as accordés, afin que nous puissions être une force, une puissance, Seigneur Père mon Dieu, pour faire promouvoir le royaume des cieux ici-bas, cette terre, et voir plusieurs âmes passer de la mort à la vie. Seigneur mon Dieu, maintiens-nous toujours dans l'unité. Donne-nous, Seigneur Père, à nous apprécier les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Tu as dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Merci encore pour toutes tes grâces et merci pour ce que tu as voulu encore nous enseigner. À toi revient toute la gloire. Amen et Amen.